Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce carnet de région. C'est déjà la cinquième saison. Je vous rappelle le principe, les radios associatives non commerciales de la région s'unissent pour vous proposer un magazine d'informations varié et pertinent. Chaque mois, une radio différente est en charge de la rédaction en chef et c'est RCF Pays d'Aude qui inaugure le bal. Dans les titres, cette semaine, la crise dans le bâtiment contraint tous les acteurs du secteur à se serrer les coudes et à trouver des solutions concrètes. Exemple à Narbonne dernièrement. Le bâtiment se porte mieux sur l'agglomération de Montpellier avec l'inauguration cette semaine du bâtiment public Pierre Vive, un paquebot qui abritera désormais archives, médiathèques et offices des sports. La mobilisation ne faiblit pas autour des gaz de schiste, leur méthode d'extraction révolte toujours autant les défenseurs de la nature. Nous irons dans le Gard. Les Jeux paralympiques ne sont pas terminés que certains s'entraînent déjà pour les prochains qui auront lieu en Russie dans 4 ans. Ça se passe en Lozère. Enfin, nous terminerons ce carnet de région avec Jean-François Leroy, créateur du festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan. Festival qui a très bien marché cette année et qui se termine ce dimanche. Le secteur du bâtiment est en crise, il est donc nécessaire de trouver des solutions rapides sur le terrain pour passer ce cap difficile. À Narbonne, récemment, une réunion de débat était organisée à la Chambre de commerce. Elle a réuni 300 personnes avec élus, représentants de l'État, présidents de fédérations et responsables d'entreprises du bâtiment. Dans l'Aude, le secteur représente 1500 entreprises et 5500 emplois. Le bilan de cette réunion avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Bernard Balester.
Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes administratifs, mais il faut en parler ouvertement, il faut que l'entreprise ait un éclairage sur son avenir. Et son avenir, c'est le carnet de commandes, ça passe par là. Et donc aujourd'hui, l'objectif de cette réunion, c'était un peu d'amener cet éclairage et d'amener aussi des propositions. On en a 24. Bon, il faut après les ajuster, mais déjà de ces 24, s'il en sort une quinzaine de concrètes, je pense qu'on aidera à faire avancer certains dossiers et on donnera un peu plus d'optimisme à nos entreprises.
Parmi les actions concrètes évoquées lors de cette réunion de débat autour de la crise du bâtiment, diminuer les délais d'instruction des permis, accélérer les délais de paiement ou bien encore ne pas arrêter les études, même si le financement n'est pas obtenu. Marie-Paul Bardèche, sous-préfet de Narbonne, était également présente à cette réunion. Ces services sont déjà intervenus pour débloquer une situation concrète.
Très concrètement, on a souvent contribué à débloquer des dossiers, que ce soit des dossiers de difficultés de financement bancaire, des dossiers complexes avec des projets qui nécessitaient des procédures particulières, de façon à accélérer ces procédures, à pouvoir en croiser le calendrier pour raccourcir les délais et j'ai réincité les collectivités, les porteurs de projets, les entreprises qui, sur des projets particuliers, rencontrent des difficultés à me le faire connaître ou à le faire connaître à la CCI parce que nous travaillons ensemble et nous pouvons effectivement faciliter en organisant des réunions entre les partenaires et les services concernés, on peut rechercher des solutions.
Des témoignages également lors de cette réunion autour de la crise du bâtiment, celui d'Arnaud Carayon, de l'entreprise Carayon, autour de la notion de prix bas. Pour lui, même en temps de crise, on n'achète pas un prix.
Mais en fait, le problème, c'est que, en ce qui concerne nos métiers, c'est-à-dire les métiers qui sont autour du bâtiment et travaux publics, la crise durant depuis 4 ans, les trésoreries sont exsangues. Donc les gens sont vraiment axés sur le prix, par nécessité financière. Mais malgré tout, il faut bien voir qu'à court terme, si on a un prix meilleur, c'est intéressant, mais à moyen terme, vous allez être obligé de faire réintervenir une entreprise pour refaire des travaux, pour améliorer, pour refaire, voire même dans certains cas, détruire et recommencer. Donc il faut quand même regarder un petit peu, de ne jamais acheter à prix, on achète une prestation, on achète un bien, on achète un service, on achète quelque chose de concret, de bien fait.
Et devant les nombreux témoignages de difficultés d'accès au financement, René-Luc Vigneron, président du comité local des banques de l'Aude, a tenu à faire passer un message.
Le défaut de financement, il existe, on ne peut pas le nier. Il est lié principalement au fait qu'une banque qui s'appelle Dexia et qui représente 20% des financements aux collectivités a été défaillante. Et
il y a un gros manque là aujourd'hui.
Et il y a un manque énorme. Et très récemment, le Crédit Immobilier de France, lui aussi, a connu de très graves difficultés. Et c'est autant de financement à l'économie qui manque. Et toutes les banques aujourd'hui ne suffisent pas forcément pour faire face aux demandes des collectivités, en tout cas telles qu'elles l'étaient jusqu'à présent.
Vous avez tenu à communiquer un chiffre, une augmentation des prêts accordés, alors que c'est pas l'impression qu'on a.
En ce qui concerne les banques en France, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'elles font très bien leur travail et que le crédit aux PME a été de 213 milliards d'euros distribués depuis un an, ce qui correspond à une augmentation de 3,4%. Donc c'est plusieurs fois la progression du PIB. On pourrait presque penser que les banques manquent de prudence. Bien sûr, je plaisante en disant cela, mais au contraire, les banques financent massivement et de façon dynamique l'économie.
En tout cas, si cette réunion de débat à Narbonne n'a pas résolu à elle seule tous les problèmes causés par cette crise du bâtiment, elle a donné des pistes pour que tous les protagonistes travaillent mieux ensemble.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le secteur du bâtiment est moins affecté sur l'agglomération de Montpellier. Preuve en est, ce tout nouveau bâtiment public inauguré cette semaine, Pierre Vive. Initié par le Conseil Général de l'Hérault, il aura mis 4 ans à sortir de terre. Un bâtiment en forme de paquebot géant, pensé et dessiné par l'architecte irakienne Zaha Hadid, sur une superficie totale de 26 000 mètres carrés. Pierre Vive a pour vocation d'accueillir 3 équipements publics, les archives départementales, la médiathèque centrale et l'office des sports de l'Hérault. Il devait coûter 75 millions d'euros au départ, mais son coût final est de 125. Le président socialiste du Conseil général de l'Hérault, André Vézinet, ne semble pas étonné.
Toutes les enveloppes des gros ouvrages explosent. Et nous sommes devant ce phénomène. Alors ça, c'est la colère que je prends lorsqu'on me donne des coûts d'estimation pour appeler les architectes ou les opérateurs à répondre à nos sollicitations en matière de marché public. Et là, chaque fois, sur les gros ouvrages, on est toujours en dessous, on fait une estimation, je ne sais pas pourquoi, au rabais, et derrière, il y a des réalités techniques, économiques, qui font que les coûts explosent. Arena, tous les grands équipements de Montpellier, mais je ne cite pas Montpellier pour être désagréable, bien sûr, à la ville de Montpellier, mais pour dire que lorsqu'il y a un gros équipement, en général, à l'arrivée, il a coûté le double de ce qui avait été estimé au départ. C'est pour ça que j'avais été très prudent. Et qu'au plan pluriannuel d'investissement, j'avais inscrit, dès le départ, 78 millions d'euros pour répondre aux besoins de Pierre Vive. In fine, le département dépassera de 2 millions cette somme. 79 millions 950 000 euros. Donc, nous aurons eu en 10 ans un dépassement de 2 millions sur l'équipement. Donc, vous voyez que c'est très acceptable. Et quand on ramènera ça, et compte tenu des aides que nous avons eues, des emprunts que nous avons levés à la nuitée d'emprunt, on s'apercevra que c'est, pour un budget comme le département de l'Hérault, c'est presque dérisoire.
André Vézinet, président du Conseil général de l'Hérault, au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault. Pierre Vive aura donc coûté au total 125 millions d'euros, dont près de 80 à la charge du Conseil général, le reste étant couvert par l'État et la région.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
On croyait les gaz de schiste morts et enterrés, pourtant ils ont refait leur apparition dans les médias cet été suite aux diverses déclarations du gouvernement. Les militants opposés à cette énergie fossile non conventionnelle sont donc toujours sur le qui-vive. Ils s'opposent notamment aux méthodes d'exploitation de ces gaz, à savoir la fracturation hydraulique qui apparaît dangereuse pour l'environnement et qui est aussi très énergivore. Une journée internationale de mobilisation a été choisie, ce sera le 22 septembre prochain. Alain Roubineau, membre d'un collectif anti-gaz de schiste sur la région nimoise, nous explique pourquoi il reste mobilisé.
La loi a conduit Le gouvernement de l'époque a abrogé 3 permis non conventionnels sur 7 ou 8 qui avaient été identifiés par la mission interministérielle. Et ces 3 permis ont été abrogés dans les zones où le mouvement citoyen avait été très fortement mobilisé et avait permis d'envoyer un signal très très fort vers le gouvernement. Mais ces 3 permis sur 64 à l'époque, actuellement il y a beaucoup plus de permis qui sont en cours de validité, et il y a plus de 80 demandes dans les tiroirs du ministère. Un petit peu de prospective et que les gens comprennent bien que ces permis abrogés dont on a parlé, ils sont abrogés, mais ils sont en recours devant les tribunaux administratifs, et principalement le permis qui concerne la région de Saint-Hippolyte-du-Fort et majoritairement le centre du Gard, c'est-à-dire le permis de Montélimar, qui est détenu par 2 filiales Groupe Total. L'état actuel du dossier est extrêmement préoccupant. Nous allons être reçus le 27 septembre au ministère avec la délégation aux affaires juridiques, de façon à faire un point sur ce dossier qui est très préoccupant. Total a beaucoup d'arguments, de très bons arguments. Malheureusement, le précédent gouvernement leur a ouvert un boulevard, et la France est un état de droit. Et le droit, c'est le droit, qu'il soit d'un côté ou qu'il soit de l'autre. Donc nous communiquerons beaucoup sur cette problématique qui va se développer dans les mois à venir. Et nous appelons les populations à vraiment être à l'écoute, parce que le 22 septembre, c'est une chose. En 2013, nous aurons d'autres menaces qui pèseront sur nos territoires.
Alain Roubineau au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade. Les Jeux paralympiques d'été de Londres viennent de se terminer. Cap maintenant sur les Jeux d'hiver de 2014 à Sochi, en Russie. Et pour être prêt à temps, 4 athlètes présélectionnés pour représenter la France en ski nordique et biathlon viennent d'effectuer un stage de 3 jours sur les infrastructures du complexe euroméditerranéen Sport Loisirs Handicap de Montroda, en Lozère. Alors comment se passe une préparation d'avant-saison? La réponse de Benjamin David, athlète handisport en ski nordique et biathlon.
C'est compliqué, c'est dur. Disons qu'on fait beaucoup d'heures le matin là quand on est en stage, plus l'après-midi, plus encore tout ce qui est à côté, muscu, gainage. Donc ouais, c'est à la fin de la semaine, on est épuisé. Non, moi j'étais pas venu l'an passé. Ça fait qu'un an et demi que je suis en équipe. Là, c'est mon premier stage ici à Montroda, donc c'est un très beau site. On arrive bien à bosser comme il faut et c'est un bon début. Ouais.
Une préparation d'avant-saison assez physique, car il ne faut pas oublier qu'avant d'être des sportifs handicapés, ce sont avant tout des sportifs de haut niveau. Benoît Gilly, entraîneur national de l'équipe de France de ski nordique handisport.
Comme les valides, on est sur du haut niveau. Donc actuellement, sur une avant-saison, on prépare une grosse base foncière, beaucoup d'entraînement d'endurance. Donc nous ici, tous les matins, il y avait au minimum 2h, 2h30 d'activité physique, soit à base de ski à roulettes, course à pied ou vélo. Et l'après-midi, en général, on enchaînait sur des ateliers, on va dire, de préparation physique plus orientée, type musculation ou technique en ski roue, greffé à du tir, car les athlètes ici ont du biathlon aussi à effectuer. Tout ça dans l'optique de la saison de cet hiver, mais aussi des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine à Sochi en Russie. Nous, on cherche un peu à communiquer sur ce qu'on fait, sans perdre de vue que les athlètes, eux, cherchent la performance. On a un sport très discret. On a du mal encore à exister par rapport aux valides. Et ça, les athlètes en ont parfaitement pris conscience. Donc, ils jouent le jeu, on va dire, avec les différents médias. Et là-dessus, moi, je suis agréablement surpris du suivi médiatique qu'il y a sur les jeux valides. Donc, c'est vrai que nous, on les suit. Et puis, si on peut un peu surfer sur la vague du suivi média des jeux estivaux, nous, c'est tout bénéfice pour nous de faire connaître nos disciplines.
Et l'équipe Handisport reviendra cet été à Montroda en stage d'après-saison. Un sujet de Ludovic Pérol de 48 FM Mende.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Déjà la 24e édition pour le festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan. Débuté le 1er septembre dernier, il se clôture ce dimanche. Son créateur, Jean-François Leroy, nous parle de l'état de santé de Visa pour l'image cette année.
Bon, on va bien, on vous remercie. Non, on va bien, on a un programme très, très fort cette année. Et on a constaté déjà une augmentation de la fréquentation en 2 jours qui est à plus 10 par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est dû à la tramontane et que ça ramène les gens vers les expos plutôt que sur les plages. Mais donc non, ça démarre bien, on est content.
Il n'y a pas de thématique chaque année au sujet de Visa pour l'image, mais c'est vraiment en prise avec l'actualité. Et par exemple, de la Grèce, la crise de la Grèce, c'est difficile d'avoir des photos sur la crise, par exemple.
C'est vrai que le concept de la crise n'est pas facile à illustrer, quoi. Comment vous illustrez le pouvoir d'achat? Moi, je ne sais pas faire ça.
Il faut beaucoup d'imagination, de plus en plus, pour... c'est toujours plus créatif, justement, le photojournalisme, ou pas?
C'est toujours un regard, c'est toujours un œil, c'est toujours une passion d'informer, mais c'est pas de la créativité, c'est juste du témoignage. Après, c'est pas parce qu'on crée quelque chose qu'on est meilleur journaliste qu'un autre, au contraire.
Et quel est l'apport, justement, du meilleur photojournaliste? Ça va être quoi, là? Est-ce qu'il va faire la différence?
Ben, je vous dis, son talent à se faire oublier, son sens du cadrage, son sens de l'émotion, son sens de voilà, c'est un témoin qui... Moi, je ne peux pas vous donner une recette pour faire une bonne photo. Je ne peux pas vous dire, voilà ce que c'est qu'une bonne image, cette photo-là, elle va devenir iconique, etc. Ça, je ne peux pas le faire. Parce que ça, y a toujours une part de mystère, une part de magie dans l'instant décisif dont M. Cartier-Bresson était si proche.
Et puis c'est toujours le public qui décide, c'est-à-dire de ça le touche ou ça le touche pas.
Exactement. Mais d'ailleurs c'est pour ça que à Perpignan on a adopté un format unique de toutes les expos, de façon à ne pas influencer le public en disant regarde cette expo est plus grande, donc elle est plus importante que les autres. On laisse à chacun le choix de retenir l'exposition, la photo qui va l'émouvoir, le faire sourire ou voilà, vous savez, la photo, elle peut véhiculer tellement d'émotions différentes que c'est toujours imprévisible. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle est très subjective. C'est-à-dire que moi, sur ce festival, je vais vous choisir une photo, vous allez m'en choisir une autre. Il n'y a pas de goût universel en termes de photographie.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prouve la durée de votre festival, 25 ans l'an prochain, il ne s'est pas essoufflé, il y a toujours l'intérêt du public.
Ah oui, bah de plus en plus, hein, la progression du public, elle n'a jamais cessé d'augmenter. Donc, vous savez, les bonnes choses, on ne s'en lasse jamais. En plus, les entrées aux expos, aux soirées de projection sont gratuites, donc ça c'est important à dire, et le public se passionne pour ce qu'on lui montre.
Comment ça se passe, la préparation chaque année de ce festival?
Eh bien, je reçois à peu près environ 4000 propositions de photographes, d'agences, etc. On regarde tout. J'ai une équipe de réalisateurs pour les soirées. J'ai une associée qui m'aide énormément à regarder tout ça. Et puis après, c'est une sélection en fonction de ce qu'on a fait l'année dernière, de ce qu'on veut faire l'année prochaine, en fonction de l'actualité du monde, avec une seule constante, la qualité des photos.
Et puis un zoom quand même sur Perpignan, les gens viennent de loin pour venir à ce festival?
Oui, écoutez, enfin de loin chez les professionnels, il y en a qui viennent de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Japon, et dans le grand public, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'hier on voyait beaucoup de Bordelais, de Toulousains, de Barcelonais dans Perpignan.
Et juste pour terminer, Jean-François Leroy, la réflexion qu'on vous fait le plus souvent cette année, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Merci.
Oh, c'est souvent ça, oui. C'est très souvent ça et ça fait chaud au cœur.
Et Jean-François Leroy fourmille d'idées pour les 25 ans de Visa pour l'image en 2013.
Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est la fin de ce premier carnet de région de la saison. Merci aux radios associatives qui y ont participé. Je vous dis à la semaine prochaine, même radio, même heure.